Max Doré, Maxime Doré, bienvenue dans la Terre est plate. La Terre est plate, LTAP. On peut le dire comme ça, c'est possible de le dire comme ça aussi. C'est légal. C'est légal de dire le tap. Et non le tip. Moi, mon fils Titi m'a dit que le tip, c'est un mime, le tip, c'est autre chose. C'est autre chose que les espèces de nerds. Je dis espèces de nerds, excusez-moi les nerds. J'aurais aimé ça être un nerd. Pour être honnête, j'aurais aimé être un nerd. J'ai pas été un nerd, j'ai été un mauvais nerd. Mais il y a de quoi, tu sais, c'est toute une catégorie d'humains duquel on riait, puis aujourd'hui, on en mange-tu de la merde? Hein? On a ri des nerds, ils sont tous propriétaires de yachts aujourd'hui. Ils ont tous des yachts, puis toutes les collections de Star Wars depuis le début, ils les ont toutes. On peut plus rien collectionner qu'à le vase, ils les ont toutes les nerds, ils ont toutes collectionné. They got it all. Non, mais, donc le tip, j'ai fait un post avec ça, le tip. Ah, puis en plus, il y a un lien. Le tip, milady, c'est la journée internationale, je pense que c'est la journée internationale de la femme. Je dis « je pense », pas parce que je m'en sac, là, je ne prenais pas personnel. J'aime pas les journées internationales de. Okay? M'intéresse pas. Journée internationale de, il y en a tout le temps. Il y en a tout le temps des journées internationales. J'aime mieux de temps en temps penser aux femmes et dire « bon, ben écoute, c'est le fun, il y a une certaine égalité dans la société. Tu sais, let's go. » Mais des journées internationales, je sais pas. Là, mais je pense que c'est la journée. Donc, le tip, c'est donc... Donc, c'est les nerds en question. Mais tout le temps, ils veulent être cool. Je sais pas c'est quoi qu'ils ont pogné comme buzz. Ils ont trippé que l'ultime look, c'était de mettre un Fedora. Fedora, c'est un petit chapeau style « Je m'en vais à pêche en 1932 ». Puis, tu sais, ils ont un petit chapeau. Puis souvent, leur tête est un peu grosse comme la mienne. Votre humble animateur a une énorme tête. J'ai une grosse tête, OK? Les cheveux n'aident pas, mais j'ai aussi une grosse tête. Ce qui fait que, quand je mets un chapeau, disons que je mettais un Fedora, ce que je ne mets pas, mais si je mettais un chapeau comme ça, bordel que c'est laid. On dirait que je me suis mis un dé à coude sur la tête. C'est pas ça, là. Okay. Mais ces gens-là, donc, ont à peu près la même tête que moi. Tout un petit peu overweight, les nerds, un petit peu overweight, on va se le dire. Puis, se mettre un petit chapeau Fedora, puis le tip. C'est comme de dire, milady, tu sais, comme dans le temps des années 1900, quand t'étais poli, là. Dans le temps où on était tous encore polis, milady. Donc, je vous fais un milady, les filles. Enfin, imaginez-moi que mon petit chapeau sur la tête, qui a l'air d'un dé à coude, je vous croise quelque part dans la rue principale à Boston en 1907. On entend les chevaux, ça sent le purin tout en vrai. Puis, milady. Puis, je mets mon manteau dans l'eau pour vous laisser passer. The whole shebang, lady. Je mets mon manteau dans l'eau, puis vous passez. Non, mais si tu le fais ou tu le fais pas, là. Tu sais, je veux dire, tu fais pas la journée internationale de la femme où tu le fais. Moi, je le fais, all shebang. Manteau dans l'eau, t'es fait de raw, milady. Donc, vous êtes officiellement salués, les femmes. Tu veux dire. Puis, il faut pas non plus se faire avec les bruits ambiants. Pourquoi on en fait pas avec les bruits ambiants aujourd'hui, puis cette semaine? Semaine de relâche week. C'est la semaine de relâche week, donc il y a du bruit autour. C'est comme ça, tu sais, quand tu acceptes les bruits, tu les acceptes pas. Mais ça dépend d'où viennent de où les bruits. Je les accepte quand c'est familial. J'aime bien ça. Bien ça avoir ma famille chez moi, j'ai du gros plaisir. Donc, c'est pas mal ça. c'est tout, bonne journée. Non, mais donc, on est quoi? On est vendredi le 8 mars. Vendredi le 8 mars. Les vendredis, tu sais plus ce que c'était quand j'étais petit, là. Rappelez-vous dans le temps, quand c'était vendredi, on se pouvait plus. T'sais, c'était comme une journée spéciale. Tu étais excité toute la journée parce que la fin de semaine arrivait. Je suis peut-être le seul adulte à ne pas le vivre de même. Je le vis pas de même. Il n'y a pas vraiment de jour de la semaine pour moi, à part les rendez-vous, à part le fait que certaines choses sont ouvertes ou fermées, puis il faut le respecter. Mais ça me coule plus à la peau, là, le fait qu'on soit vendredi, mardi, samedi, dimanche. Ça change plus grand-chose, me semble. Peut-être aussi que mon travail... Et fit avec le fait qu'il n'y a plus de jours de semaine, je sais pas. C'est plus quelque chose qui m'intéresse. Donc, bienvenue dans l'ALTAP. La Terre est plate. Ceux qui ne connaissent pas ça, ben écoutez, on parle de nouvelles à travers le monde. Ça peut être au Québec, ça peut être en Iran, ça peut être en Chine. Mais le but, c'est de les commenter un peu de les tourner, de les ouvrir, de voir qu'est-ce qu'il y en est, de ramener celles qui sont importantes pour, dans le fond, avoir un bon bagage. Tu sais, c'est le fun d'avoir un bon bagage international de ce qui se passe, local, international, de dire je comprends ce qui arrive, puis je veux pas que ça arrive. Puis en plus, quand tu comprends qu'est-ce qui arrive, mais tu peux prévoir, tu peux dire je veux pas que ça arrive. Si tu n'as aucune idée de ce qui se passe live, tu peux pas savoir ce qui va pas se passer next. Puis, dernière chose à dire d'importante là-dessus, si vous pensez qu'une nouvelle au Moyen-Orient ne vous impacte pas et qu'il n'y a aucune influence sur votre vie, ça, c'est mon wrong. C'est mon buzzer wrong. Je ne sais pas s'il est génial, mais c'est mon buzzer wrong. Si vous pensez qu'il n'y a pas, ça n'a pas d'impact dans votre vie, alors recommencez vos études quelque part. Là. Il y a un énorme impact. Ça peut être dans l'autre bout de la planète, pas toutes des nouvelles. Là. C'est sûr que s'il y a un gros Russe qui donne un coup de pied dans les fesses d'un petit Russe quelque part à Koursk, je suis d'accord avec vous autres, ça ne change rien dans votre vie. Mais il y a des nouvelles internationales qui vont impacter votre vie, qui vont changer votre porte-monnaie, qui vont venir changer le prix que vous payez de certaines choses, qui vont changer votre politique, qui vont changer votre day-to-day, qui vont changer le fait que vous ayez peut-être un emploi dans 10 ans. On est pas mal tous connectés encore plus aujourd'hui avec toutes les technos, mais on l'était depuis toujours, mais on l'est encore plus connecté. Fait que tu sais, ça c'est profond. Fait que tu sais... Oh, it's good, huh?
Nobody can do it like me. Nobody. Nobody can do it like me. Honestly.
Nobody's stronger than me.
Nobody has better toys than I do.
There's nobody bigger or better at the military than I am.
Nobody loves the Bible more than I do.
Nobody builds walls better than me.
Nobody's better to people with disabilities than me.
Nobody's fighting for the veterans like I'm fighting
for. Ça, c'est ma préférée. Ma préférée de Donald Trump. Nobody's better with people with disabilities than me. Mais... quel genre de commentaire, tu sais, je veux dire, je reviens souvent là-dessus, mais j'en reviens pas. Quel genre de personne peut dire le commentaire suivant, je le traduis pour ceux qui comprennent pas. Il y a personne sur Terre qui est meilleur avec les gens handicapés que moi. Comment un être humain peut dire ça? Premièrement, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi dans le sens où il est généreux envers eux? Il fait des bonnes choses envers eux, ou il s'en occupe mieux que tout le monde sur Terre, ou dans son cœur, il y a une place encore plus grande pour les gens handicapés que tout le monde sur Terre. The fuck? Ça veut dire quoi? Nobody's better with people with disabilities than me. C'est la phrase la plus incroyable de l'histoire de l'humanité. C'est fascinant. C'est fascinant que quelqu'un a pu penser dire ça. T'sais, après ça, imaginez-vous un jour une rencontre entre parce que c'est Donald Trump, les trois personnes qui ne le savent pas, c'est Donald Trump. Imaginez si on avait pu faire une rencontre entre Donald Trump et Mère Teresa. OK, donc vous mettez un en face de l'autre. Ils sont assis sur une chaise, chacun avec ce qu'ils ont créé, avec leur passé, avec leur force, leur faiblesse. Tu sais, je veux dire, imaginez, on compare Mère Teresa à Donald Trump. Et là, on dit, voici vos famous statements. Et là, on dit, Donald Trump, vous avez dit, Mère Teresa, écoute, « Nobody's better with people with disabilities than me. » Commenter. Le gars, il faut qu'il commente devant Mère Teresa, qui a dit qu'il n'y a personne sur Terre de meilleur avec les handicapés que lui. Tu sais, c'est Donald. Qui est meilleur avec les handicapés que Donald? Ça n'a aucun sens. C'est fascinant. Et non seulement ça n'a aucun sens, mais je vous l'ai dit, puis on parle sur Terre que tout est relié. Vous allez voir qu'aujourd'hui, les nouvelles, ben les affaires de relier. Le très commun, puis j'ai un show spécial, j'ai une émission spéciale qui va... Je suis supposé la faire hier, mais... qu'est-ce qui est arrivé? Semaine de relâche week. J'ai de la misère à faire les affaires. La semaine de relâche week, il y a trop de choses qui changent. Mais il est prêt, le show sur les psychopathes. Il y aurait juste à l'enregistrer. J'ai tout monté, ma recherche, et ainsi de suite. C'est important de faire un show sur les psychopathes. Pourquoi? Parce qu'ils sont en société. Vous faites une erreur si vous pensez que les psychopathes sont en prison. Ou en prison en devenir. T'sais, souvent, on se dit, ben, ou bien on les a emprisonnés, ou bien ils vont faire un crime pour être emprisonnés. Une personne sur 100 dans votre entourage est un psychopathe. Il sera jamais et la majorité ne seront jamais en prison. Là. C'est pas une question. C'est pas tous des tueurs ou des violeurs ou ainsi de suite. C'est des gens qui ne ressentent pas les émotions et qui piétinent les autres parce qu'ils n'en ont rien à foutre. C'est ça, des psychopathes. Donc, la majorité... Et en plus, l'endroit où il y a plus de psychopathes, selon des études, c'est dans les affaires, en business. En business. Pourquoi? Parce que les traits de psychopathes, les caractéristiques, les traits positifs, parce qu'il y en a, des traits positifs, c'est drôle à dire, mais un psychopathe a certains avantages en société, et certains de leurs avantages qu'ils ont fit avec la business. Donc, c'est là qu'ils sont. Donc aujourd'hui, le très commun, c'est mon show sur les psychopathes qui va sortir ou bien ce soir ou demain maximum. Mais entre-temps, donc Donald Trump qui dit que c'est le meilleur avec les handicapés au monde, c'en est un psychopathe. C'est pas une farce. Donald Trump est un psychopathe. Je dis pas ça pour être tendance ou pour faire chier les Américains. Je suis très neutre. J'ai aimé certaines choses d'Obama, j'ai aimé certaines choses de Bush, des choses que j'ai moins aimées. Trump, il y a certaines choses qu'il a fait. Comme j'ai dit, dès le début, quand il est arrivé, la démocratisation des médias, le fait qu'il passe par Twitter, c'était génial. D'enlever un certain pouvoir aux médias, ça s'imposait. Je suis fier de ce qu'il a fait. Je peux aussi vous dire que Donald Trump, et c'est pas pour l'insulter, c'est un diagnostic que bien des psychologues et psychiatres font, c'est un psychopathe. C'est quelqu'un qui est complètement fou. Il est déconnecté, il est complètement d'un égocentrisme démesuré. Vous entendez dans le quoi il est meilleur au monde? On rit, là, mais il le pense. Il le pense. Il est fou. Donc, en plus d'être comme ça, lorsqu'un psychopathe parle, c'est très convaincant. Okay? C'est très, très convaincant. C'est des gens qui répètent régulièrement, parce qu'il y a un dicton, il y a une maxime, une vérité qui n'en est pas une, mais qui en est une dans la société. Si tu répètes un mensonge assez souvent, assez longtemps, ça devient une vérité pour bien du monde. C'est-à-dire que si je dis, voyons non, c'est bleu ça, puis que c'est rouge, sur le début, si je le dis une fois, la majorité des gens, 99% à part un sociopathe qui lui aussi voit plein de couleurs, mais la majorité des gens vont dire, ben non, c'est bleu, c'est rouge, c'est pas bleu ça. Si je dis, ben non, ça là, ça, puis je vous regarde dans les yeux, ça c'est bleu. Je viens d'en convaincre deux, trois. C'est fou, hein? Puis si je continue on and on and on and on, je vais me rendre à 50% à peu près. C'est fascinant comme philosophie, comme façon comme évidence, mais c'est ça. Si vous répétez un mensonge assez souvent, ça devient une vérité pour bien du monde. Pas pour tout le monde. Il y a du monde qui vont dire, voyons, t'arrêtes-tu de malade? Ça marche pas ton affaire. Mais il y a beaucoup de monde qui vont flancher et qui vont voir ce que vous voyez. Donc Donald Trump fait ça. Il dit qu'il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça, c'est du witch hunt. Les ci, les ça, je suis le meilleur pour ci, le meilleur pour ça. Et le meilleur pour l'économie, c'est le pire moment de l'économie depuis 10 ans aux États-Unis. Les new job added sont sortis. Et ça, c'est son cheval de bataille. Là, aujourd'hui, là, ça fait mal. Pourquoi ça fait mal? Parce que si on parle de collusion avec les Russes, si on parle de racisme qu'il y a, puis l'augmentation des tensions aux États-Unis entre les races, parce qu'ils craignent le peuple, OK? Faites pas semblant, il craint le peuple. Il craint le monde contre tout le monde. Je veux dire, c'est incroyable comment il n'y a jamais eu de polarisation aussi puissante, aussi intense aux États-Unis depuis que Donald... Non, je dis pas jamais. Écoutez, il y en a eu. Je reprends ce que je dis. Là. Mais, pardon. Hop. Voilà. Il n'y a jamais eu de... Il n'y en a pas eu depuis longtemps, disons-le comme ça, de tension raciale aussi forte que ça. Là. C'est impressionnant, tu sais. Ça fait dans l'âge. Donc, Donald, pour ça... On peut dire c'est un ci, c'est un ça, c'est un raciste, puis il va tout le temps, ça va tout le temps lui couler sur le dos comme le dos d'un canard parce que ça l'importe peu. C'est pas là où Donald Trump, son égocentrisme, sa psychopathie est la plus grande. Le plus grand besoin pour Donald Trump, la plus grande crainte en même temps, parce que ça reste une anxiété qui est vraiment overwhelmée de l'autre bord. Donald Trump, la plus grande crainte qu'il a, c'est d'être un loser. OK? C'est d'être un perdant. Pour lui, d'être un perdant, puis sa vision d'un perdant en plus, c'est la chose la plus... C'est impensable pour lui de perdre. Il est un gagnant dans tout, 24 heures sur 24, et particulièrement en finance. Particulièrement avec le cash. Donald Trump doit toujours gagner avec le cash. Avec le cash, avec la business, avec la finance, avec les jobs. Donald Trump, c'est le meilleur. Il a fait un livre là-dessus. En même temps, le jupon dépasse. Si on regarde, il veut pas sortir son rapport d'impôt depuis une couple d'années. Il veut pas. Il a fait semblant qu'il allait le faire éventuellement. Pourquoi? Parce que ça ne reflète pas ce qu'il dit. Il y a un clash entre ce qu'il dit de ses finances, ce qu'il est, ce qu'il a réussi à faire, et la réalité. Il y a un clash énorme. C'est pas vrai. Il n'a pas la fortune qu'il dit qu'il a. Il ne donne pas l'argent qu'il dit qu'il donne. C'est faux. Complètement faux. À 99%, ce n'est pas un gagnant comme lui se voit ou comme lui le dit. Le jupon dépasse dans ses finances personnelles, mais là, le jupon dépasse dans sa politique parce que la chose qui était la plus importante pour lui, la raison pour laquelle il se présentait, « Make America Great Again ».« Make America Great Again ». C'était ça me rappelle. Elle existe encore, sa fameuse casquette rouge. « Make America ». Donc, qu'est-ce qu'il voulait? C'est pas fou comme idée. C'est pas fou, c'est du protectionnisme qu'on appelle, du nationalisme. Donc, c'est de ramener les jobs à l'interne, arrêter de consommer trop à l'extérieur du pays. C'est-à-dire qu'au lieu d'acheter un four micro-ondes à Taïwan, essayez de l'acheter d'une compagnie du Wisconsin. C'est ça, Make America Great Again. C'est de dire, écoutez, les business, arrêtez d'aller ailleurs produire moins cher pour nous ramener ça. Si vous pouvez rester ici, restez ici. C'est Make America Great Again. C'est la raison d'être de Donald Trump. C'est la raison pour laquelle il a été élu en majorité. Et là, un de ses premiers bulletins, il sort. Le fait qu'il soit dans la marde partout, ça, pour bien des gens qui n'aiment pas Donald Trump, pour des démocrates, pour des républicains modérés, c'est l'enfer, c'est insupportable depuis 2 ans. Mais pour sa base, ils n'ont rien à cirer. Il leur a expliqué à quel point c'est une conspiration mondiale et la majorité le croit. Donc, ça, c'est correct. Là, ça fesse dans le dash, c'est les chiffres. Il y a eu seulement 20 000 emplois de créés le mois passé aux États-Unis. 20 000, au lieu d'une prédiction de 150 000. 20 000 de créés sur une prédiction de 150 000. C'est un drame. Ça va freaking mal. Et c'est le nerf de la guerre de Donald. C'est son nerf de la guerre. C'est la raison pour laquelle il n'arrête pas de dire que l'économie est en feu, qu'il n'a jamais eu une économie comme ça dans l'histoire de l'humanité. Je vous le dis, c'est juste le dire, tu te sens imbécile. Tu dis, rien, non? Il le dit. Il n'a jamais eu une économie aussi puissante de l'histoire du monde. 20 000 jobs au lieu de 150 000. Son protectionnisme, son Make America Great Again va mal. Pourquoi? Pas parce qu'il y a des mauvaises idées, Donald. Il y a beaucoup d'idées, puis les économistes vous le disent, ont du bon sens. Comme présentement, il est dans un trade war avec la Chine. Ceux qui ne savent pas pourquoi, il est dans une guerre commerciale avec la Chine. Est-ce que le problème, c'est la guerre commerciale avec la Chine? Non. Les économistes de droite et de gauche vont vous dire que ça s'imposait. La Chine n'était pas fair play. La Chine, là, achetait rien ailleurs dans le monde et vend uniquement donc un trade déficit qu'on appelle positif de leur côté. C'est-à-dire que tout rentre de leur bord, mais eux sortent jamais d'argent. Comprenez-vous? C'est ça un trade déficit. C'est que tout le monde achetait made in China, mais eux achètent rien en dehors de leur pays. Ce qui fait que le cash rentre et le cash ne sort pas. Ça, c'est dramatique pour l'économie mondiale. Trade déficit. Les États-Unis sont en négatif depuis une cinquantaine d'années. Ça sort plus que ça rentre. Tu peux pas, à la longue, t'en sortir avec un trade déficit négatif. Tu peux pas. Donc, il y avait un combat, il y avait une négociation à faire avec la Chine qui s'imposait. Il l'a fait de façon Donald Trump, en les bavant, en les ignorant, en les traitant comme de la merde et en faisant sa tactique de « je vais tellement te rentrer dedans et te faire chier que tu vas plier ». C'est ce que Donald Trump a voulu faire et qu'il fait partout dans le monde. Lorsqu'il veut négocier avec quelqu'un et il veut avoir quelque chose, c'est la plus belle personne au monde. Vous voyez que Kim Jong-un, ça, c'est des amis. Puis avec Poutine, c'est des amis. Avec des dictateurs comme ça, quand il veut négocier, c'est pas parce qu'il pense que c'est des amis en passant. C'est pas parce qu'il aime particulièrement ça ou moins ça. C'est sa façon de négocier. Quand quelqu'un est en position de force contre lui, il va le praiser. C'est un psychopathe. Il va comme arriver comme un petit chien. Tu sais, là, la tête, la queue entre les pattes, là. Il arrive comme ça quand il négocie avec des gens en position de puissance. Quand les gens enlèvent leur protection ou enlèvent leur défense, paf, il les attaque. C'est un psychopathe. Quand les gens sont en position vulnérable, donc quand les gens sont déjà comme un petit chien devant lui, il les écrase. Il met le pied sur la tête et il tient une période de temps. C'est comme ça, un psychopathe, et c'est comme ça que Donald Trump fonctionne. Il fait semblant pour écraser ou il écrase. C'est un des deux. C'est un psychopathe. Donc, il écrase la Chine depuis 1 an. Là, ça va mal. Ça va mal en Chine. Oui, ça marche. La Chine en arrache aussi. 20 % de baisse de trade le mois passé. Des mauvais chiffres pour la Chine. Est-ce que les États-Unis sont make America great again? Ils sont dans fucking boîte. Ça va pas bien. Et ça, c'est le chiffre. C'est la statistique qui va faire mal à Donnie. En même temps, juste pour faire encore plus mal à Donald Trump, Canada added 50,000 new jobs last month. On explose, nous autres. Nous autres, on a surpassé les expectations. 56 000 jobs. Écoute, les États-Unis au complet, un pays avec 400 millions d'habitants, ont créé 20 000 emplois. Le Canada, avec 40 millions d'habitants, on a créé 56 000. On a créé 3 fois plus de jobs au Canada qu'aux États-Unis pour à peu près 10 fois moins de population. C'est exceptionnel. C'est Donald Trump. Félicitations, Donny Boy. Félicitations, Don. money boy.
Can do it like me. Nobody. Nobody can do it like me. Honestly.
Nobody's stronger than me.
Nobody has better toys than I do.
There's nobody bigger or better at the military than I am.
Nobody loves the Bible more than I do.
Nobody builds walls better than me.
Nobody's better to people with disabilities than me.
Nobody's fighting for the veterans like I'm fighting for the veterans.
There's nobody that's done so much for equality as I have. There's
nobody builds more jobs than I do.
In this next section, Robert describes behavior that puts him in the category of power and controlled rapist, but doesn't necessarily tell us his problems are pervasive and that he has no capacity for attachment. That will come later.
Yeah, it was power and control. I was grooming her from the age of... It started about the age of one. When I was the punisher, I was the one who decided punishment over the children.
C'est un reportage en Australie sur un psychopathe que vous entendez qui est en train d'expliquer sa façon de traiter sa famille. Il explique comment il traitait sa famille, comment il les battait, comment il les abusait. Il n'y a pas, beaucoup de psychiatres vont le dire, de psychologues, il n'y a pas de rémission au fait des psychopathes. Okay? Il n'y en a pas. Un psychopathe ne va pas guérir. Tu ne guéris pas d'être psychopathe. Tu peux comprendre qu'est-ce que tu fais, tu peux comprendre la raison pour laquelle tu fais mal, ça ne changera rien par rapport à tes feelings, tes émotions. Donc, tu ne peux pas. Encore là, ça revient avec, tu dis que tout autour, on tourne autour de toi, il y a une nouvelle qui est arrivée, et ça démontre exactement la psychopathie au travail, je vous le dis, c'est un fléau, c'est un problème. On a tous, vous avez tous à votre travail, souvent, si vous avez une business à peu près de 100 employés et plus, là, c'est sûr que vous êtes deux dans une business, il y a moins de chances, mais 100 employés et plus, vous avez sûrement un ou deux psychopathes dans le business, OK? Et ces gens-là font de la merde day to day. C'est pas une farce. Chaque jour, ils font de la merde. Chaque jour, ils essaient d'écraser quelqu'un, ils essaient de tasser quelqu'un, ils essaient de démolir quelqu'un. C'est jour après jour, après jour, après jour. Vous en connaissez tous dans le business. C'est peut-être vous. C'est peut-être vous, le sociopathe, là, si vous êtes honnête. Mais souvent, vous en connaissez tous. Puis quand tu l'es pas, tu dis, c'est quoi son problème? Mais il est bien ou est bien méchant, cette personne-là. Arrête pas de me rentrer dedans. Arrête pas de faire chier. C'est quoi son problème? Ouais, mais vous le connaissez, son problème, aujourd'hui. Puis au travail, c'est arrivé en... en Allemagne. C'est arrivé en Allemagne. Il y a un homme qui a pris prison à vie. Son nom à lui, c'est Klaus O. Donc, je n'ai pas son nom de famille. Il a 57 ans. Klaus. Klaus O. Il a empoisonné un coworker. Donc, empoisonné quelqu'un qui travaille avec lui avec un sandwich. Donc, ça faisait un bout de temps qu'il essayait le dude, là. Tu sais, le génie, là, ça faisait un bout de temps qu'il était... Parce que la personne qui est morte avait déjà parlé à ses proches, disait, hey, j'ai trouvé une espèce de substance bizarre dans mon lunch. Je l'ai pas bouffé, là, il y avait comme de la poudre, c'était comme dégueulasse. Écoute, là, tu peux pas t'imaginer que quelqu'un est en train de t'empoisonner, là. Tu sais, c'est rare que tu vas dire, whoop, là, t'as peur, là. Quelqu'un qui veut m'empoisonner, là. Tu sais, quand t'es pas le président du UK ou le chef d'Israël, là, tu sais, c'est rare que t'imagines que quelqu'un veut t'empoisonner, tu sais. Fait que le gars, j'étais juste à dire, voyons, c'est quoi le fuck qui s'est passé là? Mais avec le temps, donc, l'homme en question, Klaus, a réussi à tuer. Il l'a tué. Et c'est encore une fois un conflit au travail. Il était frustré contre l'autre personne. Il n'aimait pas l'attitude que l'un et l'autre avaient. Il y a tout le temps des conflits dans la vie. Il y a des gens qui ne fitent pas avec nous, duquel on a des conflits. Puis ça se résout des fois mal. Des fois, c'est un coup de poing. Des fois, ça choque. Des fois, tu ne te parles plus. Mais on ne va pas empoisonner l'autre personne. Tu sais? On va pas dire, OK, là, je suis tanné, je t'ai écœuré, là. Poison. Sors le poison. That's it. Poison. T'sais, voyons donc. Non, t'sais, on se rend pas jusque-là. Un psychopathe se rend jusque-là. Lui, il se dit, il n'y a aucune émotion, il n'y a aucun feeling, il n'y a pas de grave ou de pas grave dans leur tête. C'est juste, c'est une option comme une autre, c'est un outil dans leur boîte à outils qu'ils peuvent utiliser, le meurtre, comme autre chose. C'est comme, là, je suis tanné, là, ça va finir, moi, le tuer. Tu sais, vous voyez tout, il y a une émission qui est vraiment intéressante au Canal D, les voisins, les conflits voisinaux. Là. C'est tout le temps impressionnant. Tu écoutes ça et tu te dis, my God, qu'ils sont dans la merde, que ça dérape. C'est toujours un des deux qui. Il y a toujours quelqu'un qui est psychopathe là-dedans. C'est rare que c'est les deux. Là. Il y a tout le temps. C'est sûr et certain qu'à la longue de te faire envoyer chier puis de te faire de la merde, tu pognes les nerfs toi aussi. Là. Puis ça se peut que tu arrives, tu donnes des coups de pied, des coups de poing, puis tu commences à dire, hey, là, moi, j'en ai plein derrière de toi. Là. Mais reste que tu réagis au comportement d'un psychopathe. Et dans la meilleure, une des bonnes émissions où vous voyez des psychopathes, c'est ça, l'émission des voisins. Il y a tout le temps un des deux, il est fou. Quelqu'un qui a une rage inconditionnelle, aucune émotion physique, et qui va systématiquement focusser sur quelqu'un et vouloir le détruire à tout prix. Matin, midi, soir, on va y penser. On va chercher des solutions pour le détruire. Vous le dites, c'était peur, hein? Oui, j'en parle. Pourquoi? Parce que, bon, je vais en revenir aussi, dans le sens où, après l'émission spéciale que je vais faire ce soir ou demain, on dit, on n'en reparlera pas tous les jours. Mais c'est important de connaître le phénomène. C'est important aussi de savoir les déceler. J'ai vu beaucoup de documentaires intéressants. Comment déceler un psychopathe au travail? Comment déceler dans votre entourage quelqu'un? Parce qu'il ne faut pas non plus mélanger tout. Il y a des gens qui sont manipulateurs. Il y a des gens qui sont toxiques, dans le sens où ils ne sont pas gentils. Ils vont essayer souvent d'avoir l'avantage dans certains... Ce n'est pas nécessairement des psychopathes, là. Il ne faut pas dire de tout le monde, dès qu'il est négatif et qu'il n'est pas génial pour vous, que c'est un psychopathe. C'est beaucoup plus lourd que ça, un psychopathe, là. Un psychopathe n'a pas de conscience. C'est grave, là. C'est pas juste une émotion, c'est pas juste une frustration ou quelqu'un qui est en sacrement tout le temps et qui va essayer de te... Bon, je t'en ai... C'est plus lourd que ça. Donc, cet homme-là, il a pogné prison à vie, au moins une chance. Le juge dit, écoutez, c'est sérieux, là. Mais on donne. C'est pas une farce, là. T'as empoisonné quelqu'un, puis je veux dire, c'est vraiment un meurtre, que ce soit pas un coup de poignard ou un coup de fusil, c'est aussi violent, là. T'as fait 2, 3, 4, parce que, bon, l'homme a admis que c'est pas la première fois qu'il essayait, donc, d'empoisonner la personne, parce que, bon, lui, il justifie en disant qu'il y a un conflit, puis que c'est tannant, puis c'est clair que c'est comme ça, bien, c'est bon. Donc, voici, donc, c'est le cas, puis va pogner prison à vie, notre ami va s'en aller en prison. Donc, bonne chance dans cette journée internationale de la femme. Aucun lien. Aucun lien. Next News, on revient au Québec. C'est rare que je parle du Québec. Mais les prochaines deux news, on revient dans notre merveilleux Norvège province.
17, les Québécois ont payé 155,8 milliards en taxes, impôts et cotisations de toutes sortes. Une hausse de 5 milliards en un an. Selon le bilan de la fiscalité au Québec publié par l'Université de Sherbrooke, le Québec occupe la 15e place au monde, où le poids de la fiscalité est le plus élevé selon le produit intérieur brut. Les contribuables sont-ils surpris?
Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de ça.
On veut toujours payer moins d'impôts, mais quand on va à l'hôpital, on ne sait pas combien ça a coûté.
En autant qu'on en a pour notre argent, je veux dire.
En autant qu'on en a pour notre argent, correct. Ça, c'est... Donc, on est un des pires pays au monde au niveau impôt. On le sait. Pour ceux qui ne le savent pas, sérieux, on est un des pires pays au monde, donc, pour l'impôt, OK? On est 11e dans le monde pour la charge fiscale, ce qui veut dire la quantité d'impôt que vous payez. Il y a du monde qui va automatiquement dire, « Ben oui, mais tu vas à l'hôpital, c'est gratis. C'est gratis à l'hôpital. » OK, juste un petit calcul rapide pour les gens qui disent que c'est gratis à l'hôpital. Vous payez 50 % de vos impôts vont à l'hôpital. Okay? La santé, c'est 50 % de ce que vous payez en impôts, c'est 50 % du budget, à peu près. Donc, si vous faites, je ne sais pas moi, 60 000 par année, avec la charge étant le 11e pire pays au monde, vous payez à peu près 25 000 $ d'impôts. OK? 25 à 30 000 $ d'impôts, tout dépendant des déductions. Ça, c'est sans compter ce que vous payez sur l'essence. Parce qu'après que votre argent est déduit, tu sais, c'est après impôt, là. Il vous reste donc 30 000 $ Vous allez mettre de l'essence, vous payez à peu près 25 % de taxes sur l'essence, sur l'argent que vous avez déjà été imposé. Ça finit plus, là. Il y en a partout, 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 partout. Donc, le 25... Donc, pour revenir à ce que je dis au niveau de la santé, 30 000 $ sur votre 60 000 et va à la santé. Donc, par mois, si vous calculez, vous payez à peu près 2 200 $ par mois. 2 200 $ par mois pour la santé. OK? Donc, c'est la moitié de ça, pardon, non. C'est 30 000, c'est la moitié de 30 000. 15 000. Vous payez 1 200 à 1 500 $ par mois si vous faites 60 000. 1 500 $ par mois pour la santé. Sans les taxes que vous payez sur l'essence, qui va surtout en santé aussi, parce que c'est toujours là, c'est un gouffre sans fin, la santé. Et donc, vous payez à peu près 1 500 à 2 000 par mois pour un salaire moyen, là. Si vous êtes une famille de deux, vous faites 100 000, c'est le double. Vous payez 3 000 par mois. Vous payez donc, imaginez, une famille au Québec qui fait 80 000, 90 000, vous payez environ 3 000 par mois. 3 000 par mois pour la santé. Depuis 10 ans. Disons, ça fait 30 000 $ que vous donnez pour la santé. Vous allez dire, c'est gratis quand j'y vais pour les oreillons de ma petite dernière ou quand j'y vais. Voyons donc, c'est gratis. Vous êtes malade. C'est quoi cette vision-là de gratuité? C'est gratis. Vous payez un des montants les plus élevés au monde pour avoir de la santé. Les gens vont dire, hey, aux États-Unis, il faut qu'ils s'assurent. Ouais, comment ça coûte une assurance santé familiale? C'est environ 2 000 $ par mois. Ça veut dire, ben moi, je paye 2 007 au Québec, pas une grosse différence. Ouais, tu vas aller dans un hôpital privé? Le simple principe de pouvoir dire à l'hôpital, hey, je vais changer d'hôpital si tu ne règles pas ça. Hey, je vais m'en aller si je n'ai pas de meilleur repas. La négociation est complètement différente. Et là, je ne rentre pas dans le débat du qualité de service. Tous les infirmiers, les médecins, tout le monde font ce qu'ils peuvent. On le sait. Je ne parle pas de ça. Je parle du principe. Dans la vie, quand tu peux négocier et mettre une compagnie au pied du mur, tu es toujours gagnant. Rappelez-vous dans le temps où Bell Canada était toute seule. À quel point on arrachait. À quel point ils faisaient ce qu'ils voulaient puis nous envoyaient littéralement promener quand ça leur tentait. Mais c'est la même chose avec la santé. Tu peux-vous dans un hôpital, vous? Disons que ça va mal, que le médecin ne vient pas, que votre père, mère est dans son caca, ça ne va pas bien, la nourriture est dégueulasse, vous êtes 10 dans une chambre, il fait chaud, dire « Hey, si je ne mange pas un meilleur repas ou que tu ne mets pas de la climatisation right now, je m'en vais. » Ils vont dire « Bye-bye, va-t'en. » Tu sais, ils n'en ont rien à cirer, il y a aucune ils sont pas redevables. Quand c'est privé, ça se rend jusqu'au directeur général. Puis il dit, hey, la chambre 32, là, il n'y a pas d'air climatisé, ça fait 2 jours, puis la télé ne marche pas. Ils vont foutre le camp. Ils vont dire, hey, tu m'envoies un réparateur right now. Comprenez-vous, il y a une énorme différence avec le même argent. Il y a une énorme différence de choix, une énorme différence de contrôle de ton argent. Et si finalement tu manges bien, ça, c'est tout. Il y a tout un autre côté responsabilisation, là. Il y a un autre côté responsabilisation. Si tu manges bien, tu sais, exemple, tu n'es pas obèse ou tu ne fumes pas comme un cochon, pourquoi tu payes la même chose que lui qui fume comme un cochon ou elle qui fume comme un cochon ou qui ne mange pas bien? Tu sais, des fois, à l'hôpital, on envoie des gens qui font de l'asthme, sont dehors en train de puffer. Mais voyons donc! S'il a le droit, s'il veut. Moi, je suis pour la liberté, hein, je vous le dis. Là. Il pas froche quand même qu'il crève si ça le rend heureux. J'ai aucun problème avec ça. C'est sa vie. Qu'il vive sa vie amplement, qu'il la vive profondément. Je suis content pour lui ou elle. Mais moi, je paye pour ça. Il y a toute une question comme ça. Bon, on est les plus imposés. Donc, et la dernière chose qui est, pour moi, enrageant. J'ai 40 ans. Mes parents sont des boomers. Ma mère, Pauline, la boomer. Et ce qui est enrageant, c'est l'espèce d'égocentrisme et égoïsme des boomers. Les boomers ont ruiné le Québec. Là, ils vont dire, oh, vous avez ruiné le Québec. Avec des conventions collectives illogiques, avec des avantages sociaux hallucinamment mongols, vous avez pris une carte de crédit Gold Black American Express. Vous avez foutu votre style de vie, votre lifestyle sur une Black American Express pendant 30 ans. Vous avez vécu sur une carte de crédit, vous avez 12 spiders, 2 chalets, 37 skidoo. Vous êtes gras dur. Et lorsqu'il y a un reportage comme ça qui dit « Hey, vos enfants sont imposés à 45%, l'essence est à 1,22 à cause des taxes, l'hôpital va pas bien, c'est gratis, puis demain, je m'en vais jouer au bingo, la semaine prochaine, je m'en vais en 4 roues avec Monique, pas si pire. C'est sûr que c'est pas si pire, Gaston. C'est sûr que tu t'en arraches pas, Gaston. T'as travaillé à 82 000 $ par année chez Hydro-Québec. T'as une paye à vie par la suite. T'as un fonds de pension. Je veux dire, on est dans la merde, Gaston. Non, hein? Gaston, il veut juste se rendre jusqu'à sa mort bien. Il veut juste... Moi, je suis bien. Moi, je n'ai pas de problème. Puis là, en plus, il y a une nouvelle mode, pour finir là-dessus. Il y a une nouvelle mode absolument exceptionnelle. Au moins, dans le temps, les gens, tu dis, bon, au moins quand les gens vont mourir, pas au moins quand ils meurent, c'est pas le fun quand les gens meurent, mais en voulant dire, il y a un héritage qui va venir. Donc, au moins, vous avez ruiné vos enfants. Bon, au moins, il y a une partie qui va revenir en héritage. Et là, la mode, c'est de claquer son héritage avant de mourir. Vous n'en laisserez même pas. C'est exceptionnel. Une des plus belles générations de l'histoire de l'humanité. Je vous le dis, c'est une superbe génération qu'est les boomers. Je suis rough avec les boomers. J'aime Pauline la boomer, ma mère. Mais vous êtes toute une génération, les boomers.
Bon, là, ton petit père, il dort. Hey, Mathieu, sais-tu où est-ce que tes parents mettent le linge sale?
Hippopotame.
Mathieu? Qu'est-ce que tu fais, Mathieu?
Je fais une dictée. Ben ouais.
Oh wow, vous avez vidéoé.
Ben ouais, tu t'es essayé.
Est-ce que c'est compliqué?
Ben non, tu vas voir, regarde, je vais t'expliquer.
Tu vois le crayon en bas?
Le deuxième, parce qu'il est au milieu, c'est le deuxième.
Une annonce vidéo, oui.
Vidéo 3 pour un nouvel usage de la télévision.
Vidéo, oui. Hey, je vais en reparler dans mon show demain en tech parce que c'est par rapport, mais je savais pas. J'ai reparlé avec Titi, mon fils. On parlait, on déconnait. Puis je disais, hey, dans le temps, moi, j'avais quelque chose qu'on appelait vidéo, oui. Puis là, j'y expliquais ce que c'était. Vous allez revoir des vidéos sur vidéo, oui. Puis là, je regardais vidéo, oui. Je suis là, waouh. Tu sais, autant que c'était un peu quétaine, tu sais, c'était pas... Hein, il y avait le croupier, là, puis tout ça, puis... Mais c'était révolutionnaire en même temps, là. Il y avait des emails là-dedans. On parle de 92, 93, 94, il y avait des emails, il y avait plein d'affaires. J'étais impressionné, tu sais, j'étais là, voyons donc. On s'en allait quelque part avec ça. Puis je me suis dit, c'est qui la grosse corporation? Parce que ça s'appelle VideoWay, c'est comme en anglais en plus. Fait que je me suis dit, tu sais, c'est... Ils ont dû acheter la technologie de... Je ne sais pas, de AT&T aux États-Unis ou Verizon dans le temps, ou je ne sais pas quelle compagnie dans les années 90 était forte au state, comme Cass, je ne sais pas. Ils ont dû acheter ça puis dire, regarde, ben, sacrément, ça a été construit ici. C'est québécois, Vidéo, hein. C'est des gens pis avec Vidéotron qui ont développé Vidéo, hein. Mais je veux dire, comme Sears a fait faillite, je vais donner un exemple. Sears, là, il n'y a aucune raison pour laquelle ils ont fait faillite. Pourquoi? C'était un site web avant le temps. Ils étaient là depuis 100 ans, ils avaient un site web. Pourquoi? Ils envoyaient un catalogue duquel tu commandais et tu recevais chez toi. C'est un site web. Ils étaient les pionniers du site web il y a 70-80 ans et ils n'ont pas réussi à avoir un réel site web avant de planter. Il n'y a aucune raison pour laquelle Sears ne devrait pas être Amazon. Sears devrait être Amazon. Sears devrait être Amazon. Un autre qui est mort trop tôt, qui est peut-être arrivé un peu trop vite dans le monde, qui était génial, distribution consommateur. C'était un Best Buy avant le temps. Donc, ils n'ont pas... Souvent, les business, ça, c'est une autre affaire. On en parle dans le show de business, puis dans le show de... J'avais un show d'affaires de business. J'avais 5 épisodes sur les business. Souvent, les grosses entreprises, surprenamment, ne bougent pas. Parce que les patrons veulent leur bonus. Ils veulent pas rien changer. C'est un gros fléau, ça. Quand le propriétaire n'est plus là, quand la personne qui a démarré n'est plus là, souvent les PDG nommés veulent un status quo pour avoir leur cash. Fait qu'ils ne feront pas de move nécessaire qui aurait dû être fait chez Sears il y a 20 ans. Mais aucune raison pour laquelle Sears ne serait pas Amazon. C'est vraiment une erreur flagrante. Mais Vidéo, oui, il n'y a aucune raison pour laquelle le consortium qui a construit ça n'aurait pas pu devenir un géant de la techno en 2020, en 2030. Mais c'était bien génial, cette affaire-là. Il y avait bien une gang de gens hyper bol là-dedans, intelligents et visionnaires. Pourquoi on n'a pas foutu du cash là-dedans, grossi, puis devenu un monstre de l'interaction? Pour avoir créé du AI, on pourrait avoir créé plein d'affaires. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi c'est pas allé plus loin, cette histoire-là. VideoWay est mort en 80... Je pense en 2007, en plus c'est récent. Qui avait encore un VideoWay en 2007? C'est qui louche qu'il y en a encore sur Vidéo? Parce que ça dit que Vidéotron a arrêté d'offrir le service en 2007. Voyons donc. 2007. Ben, louche. Mais nous, il y a quelqu'un qui avait encore... Si c'est toi là, qui avait encore ton VideoWay en 2007, t'es fascinant. Là. Je ne m'attendais pas à ça. Mais VideoWay, donc, était wow. Wow, la gang. Félicitations. J'aime ça pouvoir féliciter. Depuis le début, c'est un peu rough avec le Québec. Puis bien des affaires, avec raison, parce que c'est pas... Il y a bien des affaires qui tournent un peu croche. Mais ça, c'est comme, wow! Vous avez créé quelque chose d'exceptionnel. Vous aviez quelque chose. Hein. Vous deviez le sentir à l'époque. Vous aviez de quoi entre les mains de tangible. Vous aviez une technologie du futur, premièrement, ou deuxièmement, ou troisièmement. Pourquoi on n'a pas vendu ça comme des malades à travers le monde? Pourquoi on ne s'est pas mis à Vidéotron, on n'a pas fait une division complète techno-interaction pour commencer à vendre ça puis l'améliorer à travers le monde? Qu'est-ce qui s'est passé là? Comment ils ont pu arrêter cette patente-là? Est-ce que c'était désuet? Est-ce que vous avez essayé? Je ne sais pas. Je n'ai pas assez étudié là-dessus. Je vais revenir là-dessus dans mon show de la tech, demain en tech, parce que ça a rapport avec ça. Mais je ne comprends pas. Là. Je ne comprends vraiment pas le pourquoi. Je ne sais pas pourquoi c'est arrêté. Oui, je comprends en 2007 pourquoi c'est arrêté. Ça a plus rapport comme technologie parce que ça n'a pas changé. Ça n'a pas évolué. Il est là, le fuck. Le fuck n'est pas que VideoWay était problématique à la base et qui a fini en 2007. C'est que c'est le même VideoWay de 2007 qui était là en 1994. Le problème était pas mal là. Il y avait un fuck. Là. Il y avait un fuck avec VideoWay. Puis je parlais aussi de Flash tes lumières, tu sais. Flash tes lumières. Ceux qui ont vécu Flash tes lumières. Avec ça, je vais en revenir là-dessus en plus. Lundi, je vais revenir là-dessus, Flash tes lumières. Mais juste pour dire, je veux remercier Jean-Marc Parent pour le Flash tes lumières pour la raison suivante. C'était merveilleux. Je ne sais pas s'il était conscient. Je pense que ça se pourrait parce que Jean-Marc Parent est une personne avec ses forces et ses faiblesses qui semble être très humain. Jean-Marc Parent semble être très humain, a beaucoup d'empathie pour les gens. Quelqu'un qui semble sentir la douleur des autres. Ça semble assez évident dans ses histoires, la façon qu'il est. Semble très vrai par rapport à ça. Et lorsqu'il nous a fait flasher la lumière, ceux qui ne connaissent pas ça, il y avait un show qui s'appelait L'heure JMP. Jean-Marc Parent était très différent dans ce show-là. Et une des choses qu'il nous faisait faire, c'est qu'en même temps, il disait Québec, Belleuil, Sherbrooke, c'est le temps de flasher vos lumières. Donc, on allait dehors, on n'allait pas dehors, mais on allait sur la lumière extérieure ou dans notre maison, peu importe toutes les lumières de la maison, et tu flashais tes lumières, ce qui fait qu'on voyait l'interaction avec tout le monde. Puis, il filmait des airs. Une fois, il avait loué un avion, c'était pété son affaire. C'est très, très, très révolutionnaire comme émission. Mais, donc, on flashait nos lumières. Mais ce que ça a fait, et je ne sais pas s'il en est conscient que ça a fait ça, ça nous a comme montré qu'on était plus proche qu'on pense. Tu sais, nos voisins duquel on parle pas, on parle plus au monde autour de nous. Et quand ils nous faisaient faire ça, on voyait que le voisin en face flashait ses lumières, ça nous rapprochait. Ça nous montrait qu'on n'était pas différent dans le fond, qu'on se ressemblait pas mal, qu'on écoutait la même chose premièrement, qu'on faisait le même geste, qu'on riait, on avait le même désir de faire ça pour répondre à la demande de Jean-Marc Parent. Je pense que ça a dû unir des gens et des quartiers et des... C'était une belle façon. Dans une époque où on est aujourd'hui avec des Trump qui divisent, qui font une espèce de polarisation de la société, il y en a partout dans le monde, la division. C'est rendu intolérable. Il y avait quelque chose là. Il y avait une humanité. Il y avait une belle humanité chez Jean-Marc Parent qui devrait, du moins, devrait le remercier pour ça. Puis ça devrait revenir, ce genre de truc-là, pour nous montrer sincèrement que, surtout entre voisins, entre provinces, on se ressemble particulièrement. On est pas mal... toute la même chose. Je vous aime gros comme Jean-Marc Parent était gros. C'est pas fin, ça. Je vous aime gros comme Jean-Marc Parent était, son show était gros à l'époque.